Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Une paracha très très exceptionnelle, une histoire banale, une histoire qui peut arriver à toutes les familles, mais la Torah nous raconte ça comme une histoire juive. Donc au début de notre paracha, après la paracha de la semaine dernière, où on a parlé du mariage entre Yitzhak et Rivka, du mariage arrangé ou non, avec beaucoup de détails. Comment Yitzhak elle trouve Rivka, et qu'on a vu, il me semble que finalement, si la Torah raconte quelque chose en détail, ça veut dire qu'il faut la voir beaucoup plus large. Il faut voir que c'est une histoire de vie pour tout le monde. Alors c'est vrai que c'est arrivé à tel et tel, que tel est patriage des peuples juifs, mais en même temps, puisque c'est arrivé à ces patriages, et comme il est marqué que tout ce qui arrive au patriage, ça arrive à nous, surtout les détails, les sujets que la Torah développe beaucoup. Parce que si on compare des histoires, il y a des histoires qui sont détaillées, la Torah nous raconte avec des détails, et il y a des histoires que la Torah raconte très très court, ou même, voire, elle ne nous raconte pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est la question que, est-ce que les messages éternels, ou bien... De toute façon, de toute histoire, il y a un message. Mais est-ce que le message est très très fort à tel point que la Torah nous raconte? Ça veut dire pour nous dire que sachez que ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer. L'histoire se répète. Donc c'est votre histoire personnelle. Vous passez aussi par le même schéma. Ou bien il y a des choses que la Torah ne raconte pas. Alors à ce moment-là, quelque part, ça prend moins de place dans notre vie. Donc la Torah nous raconte le mariage d'Yitzhak et Rivka, comment c'était pas simple. Et ensuite, dans notre paracha, la Torah nous raconte plusieurs choses. Mais elle nous raconte tout d'abord la naissance, que la naissance n'était pas simple, de même que le mariage n'était pas simple, la naissance n'était pas simple. Il y avait au bout de 20 ans de mariage, et c'est là où d'un coup il y a les enfants qui sont arrivés, une grossesse. Donc ils ont vu que des années passent et il n'y a pas d'enfants, ils ont prié et à ce moment-là Dieu il a écouté son à lui surtout et pas à elle, il est marqué pourquoi, mais en tout cas son prière et Dieu il leur donne il donne à Rivka cette grossesse, mais la grossesse se passe difficilement. Elle pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement difficile? Donc alors là, elle va vers Shem. Shem qui était le fils de Noé, qui était encore en vie, parce qu'il a vécu très très longtemps, comme il le manquait. Donc il était encore en vie. Et donc, lui, quelque part, était un messager de Dieu à ce moment. Elle demande, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi la grossesse se passe tellement de mal? Et là, il révèle quelque chose, que c'est pas une grossesse normale, c'est une grossesse avec deux êtres qui sont carrément opposés. Il y a pas mal de choses à comprendre matériellement, ça veut dire quoi. Mais en tout cas, il dit que c'est deux êtres qui sont opposés, c'est pour ça que quelque part, on peut considérer que la guerre a déjà commencé dans le ventre. Mais en tout cas, il y a une guerre permanente qui va durer. Ça va durer toute leur vie, mais ça va durer le long des histoires. Et quelque part, il lui révèle qu'il y aura Yaakov, et ensuite, en vérité, il y a Esav, qui d'ailleurs, il est né le premier, et il y avait Yaakov, et qu'ils vont être carrément différents. Et seulement, non seulement qu'ils vont être différents, dans toute leur vie, il y aura des conflits, et pas seulement dans toute leur vie, dans leurs descendants, il y aura des conflits. Donc alors, quelque part, c'est là la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme, même si ce n'est pas un vrai antisémitisme, parce que Esav, il est aussi sémite. En tout cas, c'est une notion de racisme, ou bien, comme il le marquait, ils, ils savent, et ses descendants, ils n'aiment pas Yaakov et ses descendants. Alors toujours, ils trouvent une raison pour laquelle, mais en tout cas, ça c'est l'histoire de la Torah. Une histoire douloureuse. Et quand on va continuer encore un petit peu dans cette histoire, avant de voir les, l'idée, les symboles au niveau spirituel, c'est que ils sont donc, il y a cette grossesse qui est difficile, et au moment de la naissance, il y a le premier qui sort, il est roux, il a beaucoup de cheveux, il est couvert de poils, et on l'appelle, et ils savent, ça rappelle le mot Seir, en tout cas le mot, la notion d'être, il était terminé, il était parfait, mais il était même plus que parfait. Donc il a déjà des poils plus que d'habitude, et donc on l'appelle Esav. Mais après, il y a son frère qui sort, et comme ça il est marqué dans la Torah cette image, je sais qu'au niveau scientifique il faut l'expliquer, mais en tout cas il est marqué cette image, que l'autre il sort, et il essaye de suivre le premier, donc il tient la main sur le talon de l'autre. Et à ce moment-là, on l'appelle Yaakov, Ekev en hébreu, ça veut dire talon. Et donc il tient, et on dit qu'il y avait une raison, il voulait sortir le premier. Donc ça c'est l'histoire de la Torah, que bien sûr qu'il y a des commentaires, qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les symboles spirituels. Donc alors, il y a, ils savent qu'ils sortent au premier, Yaakov n'est pas d'accord, il veut sortir le premier. Et finalement, donc il tient les talons d'Esav, et à partir de là, ça devient, cette image revient, il y a un conflit, et un conflit, et le conflit, il se tient au niveau des talons, et donc on appelle Yaakov, celui qui est né, on appelle Yaakov, puisqu'il a tenu les talons, pour empêcher Esav de sortir, comme ça il est marqué encore une fois. Il y a des commentaires, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais ça c'est l'image que la Torah nous donne. À partir de là, au niveau spirituel, ça devient le conflit, comme on a dit tout à l'heure, mais le conflit peut être de deux manières. Il y a parfois un conflit moins douloureux, mais il y a un conflit que, comme le nom de Yaakov, Yaakov, il doit s'occuper des petites choses, des talents. Il y a parfois un conflit intellectuel. Il y a parfois un conflit qu'il faut rentrer dans le petit jeu de l'autre pour le battre, pour le convaincre peut-être. Donc alors ça veut dire que parfois le conflit reste au niveau plus spirituel, plus humain, plus intellectuel, et parfois le conflit il doit aller baisser, se baisser dans les petites choses. Et d'ailleurs, cette chose est beaucoup plus développée un petit peu plus tard, plus loin dans la Torah, lorsque Yaakov il doit aller chercher sa femme, et se donne, d'ailleurs à la fin de notre parasha, au début de la parasha de la semaine prochaine, il doit chercher sa femme à Haran, donc c'est la région d'où son grand-père est venu, et donc à ce moment-là, il va chez son oncle, et pour se marier avec sa fille. Et donc il annonce, il est marqué pas clairement dans la Torah, mais il est marqué dans la Torah, qu'il dit à Rachel, lorsqu'il le rencontre, il dit, « Dis à ton père que son frère est venu. » En tout cas, il dit autrement, il raconte à Rachel qu'il est le frère de son père. Frère, ça veut dire quoi? C'est pas le frère de son père, mais quelque part, ça veut dire proche de son père. Mais il y a une autre signification, je suis son frère, ça veut dire je suis comme lui. S'il va être honnête avec moi, je vais être honnête avec moi, avec lui. S'il va être méchant quelque part, rusé, malhonnête avec moi, moi aussi je sais être malhonnête. Donc ça c'est la notion d'être frère, ça veut dire je suis comme lui, je ne suis pas naïf, je ne suis pas... En fait, je vais me comporter avec lui comme lui il va se comporter avec moi. Et ça, c'est devenu un symbole de Yaakov qu'il doit se baisser pour faire des choses qui ne sont pas honnêtes, si on peut dire, pour battre celui qui fait des choses pas honnêtes avec lui. Et on va trouver dans notre parasha qu'effectivement, que Yaakov, il doit cacher, il doit quelque part tromper son père, et comme ça, il va voler les bénédictions qui étaient réservées, en tout cas par son père, à Esav, et ils vont passer vers lui. Alors là aussi, c'est un sujet, je ne sais pas si on aura le temps de parler ou non, c'est un des sujets très intéressants dans la Torah, et, en fait, comment on peut indiquer intéressant, plus intéressant, mais en tout cas, c'est parmi les sujets, quelque part, c'est le secret de la Torah. Il y a une histoire qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière cette histoire. Ce n'est pas simplement une histoire de frères. Il y a quelque chose d'anormal. Et ça, c'est parmi les mystères de ce que s'appelle le monde de Tao et le monde de Tikkun. Peut-être on va revenir, peut-être non. Mais en tout cas, pour le moment, ça c'est l'histoire d'Esav et Yaakov. Donc comme on a dit, qu'Esav et Yaakov, ils sont déjà non d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Déjà dans le ventre de sa mère, de leur mère, mais ça va durer toute leur vie, ce conflit. Et ce conflit va être au niveau des... Ça veut dire que Yaakov, la vie ne va pas être facile, puisqu'on voit que dans la vie, alors il y a deux manières de chasser l'obscurité. Soit par une grande lumière, ça veut dire que j'éclaire, alors à ce moment-là, je chasse l'obscurité, ça c'est au niveau physique, si on peut dire, mais il y a certains mal qu'on ne peut pas chasser par la lumière, il faut s'occuper, il faut être très prêt, comme on voit dans l'armée, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, que l'armée de l'air, parfois elle doit faire un travail, c'est beaucoup plus facile de faire ce travail, mais ce n'est pas un travail... approfondi. Le travail approfondi, ça fait par l'armée de terre où elle rentre détail par détail. En tout cas, ce qui est assez connu dans le monde. Là aussi, Yaakov, il a un travail à faire, pas seulement un travail de grande lumière. Il va éclairer Esav, non, il va travailler avec lui. Ça veut dire remarquer des ruses qu'il y a et s'occuper. Et donc, alors, en gros, c'est ça. Le conflit, et le conflit n'est pas éternel, parce qu'à un moment donné, ce conflit il va résolu avec Mashiach, mais c'est un conflit de très long terme entre Esav et Yaakov. Et Yaakov, il doit s'abaisser à Esav pour voir, pour s'occuper de lui, pour en tout cas se battre avec lui au niveau d'Esav. Ça, c'est un petit peu l'histoire de la Torah. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, si la Torah, elle rentre, elle détaille tant cette histoire, ça veut dire que c'est notre histoire. Et là, à partir de là, la Torah, mais pas seulement la Torah, c'est une vision un petit peu plus générale qu'on trouve chez les philosophes, mais la Torah, elle base sur cette histoire de la Torah, que c'est une histoire humaine chez chacun. Chacun, il a en lui deux petits bonhommes, si on peut dire comme ça, deux êtres qui sont opposés. Dans le chassidut, ça s'appelle l'âme divine et l'âme animale. D'une part, on est animal, on veut des choses animales. Qu'est-ce que c'est un animal? On peut dire plusieurs choses, mais tout d'abord, l'animal, c'est quelque chose qui s'intéresse à elle-même. Elle veut son bien matériel. Elle est attirée par la matérialité, elle est attirée par des choses matérielles, par des choses égoïstes, etc. Alors, c'est vrai que chez l'animal, c'est limité à ce qu'elle est. Ça veut dire qu'un animal ne va pas devenir un mouton, il ne va pas devenir un lion, ça veut dire qu'il ne va pas faire de catastrophes, il ne va pas faire de méchancetés qui sont liés avec des lions, elle est très limitée à ses limites. Par contre, chez l'homme, lorsqu'il devient animal, il peut devenir sauvage, il peut devenir méchant, agressif, très mauvais. C'est pour ça que l'homme, il n'est pas limité. Quand on dit que l'homme, il est comme un animal, c'est vrai, mais il n'y a pas de limite pour l'homme. Il peut dépasser ses limites, il peut dépasser sa nature pour devenir très cruel. Mais d'une autre part, il a une âme divine qui est parfois attirée par cette divinité. Alors là aussi, il y a plusieurs niveaux chez l'homme. Il y a des gens qui sont plutôt divines, ils s'intéressent aux choses spirituelles. Quand on parle de la spiritualité, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui carrément ils sont spirituels. Ils cherchent des choses spirituelles, ils aiment les choses spirituelles. Il y a des gens qui sont moins, mais ils aiment les choses un petit peu. On voit que les gens ils sont différents. Il y a des gens qui sont grossiers, il y a les gens qui sont plus raffinés. Il y a des gens qui sont attirés par ce qu'on appelle la musique, la spiritualité. Mais en tout cas, il y a deux choses chez l'homme. D'une part, alors ce n'est pas comme l'animal, que l'animal il est ce qu'elle est. On ne peut pas changer radicalement l'animal. Elle va rester finalement, on peut changer un petit peu des petites choses, mais elle va rester animal. Chez l'homme, il est attiré par deux extrémités. D'une part, il est attiré par des choses matérielles. Et parfois, c'est devenu plus matériel et très grossier et très mal et très cruel. Donc, si l'homme, il se laisse faire à tous ses désirs, parfois, depuis la naissance, il est déjà assez mauvais. Et donc, il y a toujours des possibilités de se rattraper, mais il y a des gens qui, depuis la naissance, ils ont du mal avec cette animalité, si on peut dire comme ça. Ils sont très attirés par des choses très très bas et très mauvaises. Et bien sûr que dans la vie, il y a des solutions, mais il y a des gens qui sont plutôt attirés par des petites choses, par des petites natures animales, et ils les limitent. Donc alors d'une part, on est animal, tous, chacun selon son niveau. D'une autre part, on a un côté spirituel, divin, et on est attiré par ça. Donc alors, comme on a dit tout à l'heure, que cette histoire biblique, c'est en même temps, c'est notre histoire. Alors, si on traduit cette histoire de la Torah à notre propre histoire, il faut dire comme ça, qu'il y aura une naissance. La naissance commence par dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que là où il forme les enfants. D'ailleurs, il y a cette tradition qui dit que l'éducation des enfants, bien sûr, dépend de leurs parents, mais déjà, les comportements des parents vont définir leurs enfants. Le comportement, au premier moment, c'est ça qui va définir le comportement de leurs enfants. Quoique, même si que toujours, il y a toujours le libre arbitre, mais ça va être plus difficile parce que c'est les parents qui définissent leurs enfants. Donc, ils définissent par l'acte, le contact entre les deux, c'est défini par la façon comment ils se comportent avant et après. Dans certains domaines, je pense qu'au niveau scientifique, on les voit. Il y aura une influence de leur comportement lorsque l'enfant ou les enfants ils sont dans le ventre de leur mère. Et ensuite, bien sûr, qu'après, il y a l'éducation. L'éducation, c'est le plus important, finalement, dans la formation de ces enfants. Cette semaine, d'ailleurs, on était à ce qui s'appelle la conférence internationale des envoyés du Rabbi autour du monde. Et il y avait plusieurs étapes, mais l'étape presque finale était que tout le monde était ensemble avec leurs supporters, en fait, ceux qui ont pu venir. C'était à New Jersey, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles qui peuvent porter, il me semble, 6 000 personnes autour d'une table, bien sûr, de plusieurs tables. Donc, sur la route, le chemin de retour pour Corona, c'est donc le quartier du Rabbi de Lubavitch. Alors, j'ai entendu deux personnes qui étaient assises à côté de moi qui sont discutées et la discussion était très intéressante. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas simple. Il y a des parents qui sont bien, ils donnent une bonne éducation à leurs enfants, et pourtant, les enfants, ils ne sortent pas tout à fait comme ils veulent, ou même pire. Donc, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est intéressant de voir l'expérience des gens. Il dit comme ça que pour lui, les deux points très importants pour que les enfants soient bien, parce que finalement, on est censé, en tout cas, si les parents, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas quelque chose de très très clair, donc alors c'est normal que les enfants, ils ne les suivent pas. Parce que même les parents, ils ne sont pas quelque chose à proposer, un mode de vie à proposer. Donc alors les enfants, ils ne voient pas que leurs parents, ils ont quelque chose à proposer. Alors c'est normal qu'ils vont chercher ailleurs. Et si les enfants, ils trouvent à leurs parents un modèle de vie, il peut y avoir quand même des problèmes qui peuvent faire que finalement les enfants, ils vont rejeter ce mode de vie, même si c'est un mode de vie, de très bon mode de vie. Mais il y a deux choses. Tout d'abord, s'il n'y a pas de respect entre les parents. Le respect, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de respect. Mais le respect, déjà, ça veut dire que là, il ne contredit pas l'autre. Ça veut dire qu'il parle d'une seule voix. Même si c'est normal, parfois, qu'on n'est pas d'accord. Mais il y a quand même le respect. Si les enfants, qu'ils captent tout, surtout quand on est petit, on capte tout. Si les enfants, ils voient que les parents ne sont pas d'accord entre eux, surtout s'il y a une dispute, mais aussi si on ne parle pas d'une façon correct et respectif, alors à ce moment-là, même si que les parents, chacun, et les deux ensemble, représentent une idée, une immensité de morale dans d'autres domaines, mais le fait même qu'ils ne sont pas d'accord, ça fait une ligne rouge pour les enfants qu'ils se disent, moi je ne veux pas être comme mes parents. Il disait une autre idée que aussi donne, même si que la vie parfois est difficile, il faut que les parents ils aspirent à une joie de la vie. Il y a parfois de la vie qui n'est pas facile, donc alors facilement on dit, oh là là, comment c'est dur, comment c'est difficile. Même si qu'ils parlent en même voix, mais le fait même qu'on dit toujours que ça ne va pas, c'est difficile, alors à ce moment-là, les enfants ils disent, si c'est difficile, je vais chercher ailleurs. Là où c'est moins difficile. Donc moi, je trouvais cette discussion très intéressante. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on sait que les enfants, ils suivent leurs parents, et ils prennent leurs parents comme un modèle. Et ça peut être parfois bien, et parfois ça peut être le contraire, comme on a dit. En tout cas, pour revenir à cette idée, comme on a dit tout à l'heure, que notre paracha, c'est une histoire de vie à nous. Même si que la Torah nous raconte cette histoire d'Yitzhak, donc Rivka et leurs enfants, Esav et Yaakov, qu'il y avait un conflit ensuite des peuples, jusqu'à aujourd'hui on souffre de ce conflit, mais ce conflit même, elle se trouve chez nous, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, qu'il y a un conflit entre deux choses, entre matériel et spirituel, entre des biens et des mal, et ce conflit est éternel. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce conflit? Alors il y a plusieurs manières comment on fait, mais ce conflit, c'est quelque part cette volonté qu'il y aura un qui va gouverner le corps et l'autre, il va être obligé de suivre. On ne peut pas imaginer deux personnes qui gouvernent. C'est ça l'image que la Torah nous donne par rapport à Esav et Yaakov, que si là, il gouverne, l'autre, il ne gouverne pas. Et si là, il gouverne, l'autre, c'est comme une balance. Si là, ce n'est pas l'autre. Si là, ce n'est pas l'autre. Donc, chez nous aussi, si on est très attiré par la spiritualité, quelque part, on est libéré par les soucis matériels. les soucis, en fait, il faut comprendre. Ça veut dire qu'on est moins embêté par les soucis grossiers qui nous dérangent. On sait qu'on est dans un monde où les gens ils ont des désirs indésirables, si on peut dire comme ça. Mais les gens, ils n'arrivent pas, ils ont ces désirs, qu'est-ce qu'on fait? Alors parfois, lorsqu'on arrive à obtenir un désir spirituel, on arrive à avoir quelque part, mettre notre désir dans quelque chose de positif. Alors officiellement, en fait, automatiquement, les désirs grossiers s'effacent. Ou bien se cache, ou bien d'autres manières. Mais en tout cas, on est toujours dans ce conflit. Si ça, c'est pas ça. Il y a d'autres manières. Alors là aussi, on peut avoir deux manières de guerre. Il y a, d'ailleurs, on est à la porte de ce mois qui s'appelle le mois de Kislev. Il est considéré comme le mois de la libération dans les peuples, dans le monde chassidique. On va parler si Dieu veut. Et donc, il y avait des conflits, il y avait des prisons. Et le premier rabbi qu'il avait, son idéologie chassidique, il l'a développée. Et il avait des gens qui l'ont opposé. Jusqu'à un moment, on l'a mis en prison. Et finalement, il raconte qu'il est sorti en paix. Encore, on va revenir à ça. Ça veut dire qu'il y avait un conflit, mais il est sorti en paix. Alors, sortir en paix, à partir de là, on prend ça comme un symbole, encore une fois, puisque toute histoire, on les sert pour nous-mêmes, pour notre vie. Il y a deux manières comment quelqu'un qu'il peut se sortir d'une difficulté. Des difficultés. Soit d'une façon comme quelqu'un, comme si on va prendre l'exemple de l'obscurité, on est dans l'obscurité. Et je vais me sortir, je vais m'arranger, je vais surmonter les épreuves. Il y a deux manières. Il y a une manière que je vais tâtonner. Comment sortir? Donc alors, à ce moment-là, je peux tomber et remonter jusqu'à le moment où je trouve la porte. Soit pour une autre manière d'allumer la lumière. Et à ce moment-là, je vois que très clairement. Là aussi, dans la vie, il y a deux manières de se libérer des problèmes. Soit j'ai la lumière carrément. Soit, comme on a dit tout à l'heure, on travaille étape par étape, par des petites choses. Yaakov, pour vaincre, Esav, il touche ses talons. Ça veut dire qu'il s'occupe des petites choses. Donc, comme on dit, à la petite cuillère, on avance doucement, mais doucement. Soit, il y a une autre manière. Non, ça veut dire qu'on allume la lumière, on éclaire, et à ce moment-là, on sort des problèmes d'une façon victorieuse d'une part, mais sans dégâts d'une autre part. Alors c'est vrai que dans notre vie, il y a les deux notions. Il y a une notion des gens, et ça c'est la majorité du temps qu'on s'occupe de nos problèmes étape par étape. Donc c'est pas toujours facile, parfois on se trompe, parfois on tombe pour surmonter. Et dans la vie aussi, il y a des occasions où on arrive à éclairer. Donc alors c'est pour ça que dans la vie de Yaakov, parfois on l'appelle Yaakov, et ensuite plus tard on va l'appeler Israël. C'est deux manières. Au début il devrait, pour convaincre et pour vaincre, et ils savent, il devrait marcher par le petit chemin. Donc c'était difficile et douloureux, et c'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov. Et parfois, et plus tard, c'était plutôt dans notre tendance d'éclairer. Et c'est pour ça qu'on appelle Israël, comme on trouve dans le mot Israël la notion de sar, ministre, quelqu'un qui a une force, donc pour changer les choses. Et à ce moment-là, la guerre est beaucoup plus facile entre les deux. Mais en tout cas, d'une façon générale, c'est ça notre vie, et ça veut Yaakov, notre vie personnelle, le conflit, si on peut dire éternel, entre deux personnes, entre la personne lui-même, à l'intérieur de la personne lui-même, est-ce que je suis attiré? Alors, on peut le voir d'une façon très générale, et on peut voir par rapport à certaines difficultés que chacun il a, si on va parler de difficultés de quelqu'un qui s'énerve facilement, et donc il s'énerve, donc il crie, donc il y a des conflits, et après il y a des dégâts bien sûr, des dégâts qu'on peut réparer, des dégâts qu'on ne peut pas réparer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors Il y a des gens qui sont très énervés et pourtant ils tiennent, ils trouvent une solution de ne pas crier, de garder en soi cette colère. Et il y a par une autre manière plutôt spirituelle de trouver une manière de regarder autrement la vie. Donc quand je ne suis pas en colère, c'est une autre manière de battre. Ou bien il y a beaucoup d'exemples par ces conflits, mais il faut savoir que ce conflit qu'il est marqué dans la Torah, c'est notre conflit personnel qui se répète, qu'elle est toujours là. Donc, alors, un petit peu, ça, c'est le sujet de la paracha. Mais on va quand même terminer avec... Yaakov représente la spiritualité d'une façon plus générale, la Torah. Et ça représente la matérialité, plutôt le corps. Et finalement, comme il est marqué, qu'aujourd'hui, pour que le corps il soit bien, on a besoin de la matérialité, de la spiritualité. Grâce à la spiritualité, le corps, il est bien. Donc, alors, quelque part, pour que Yaakov domine, et ils savent, Yaakov domine le corps, ça veut dire que le corps, il soit comme il faut, donc là, on est dans le symbole. Alors, à ce moment-là, il faut que Yaakov soit ce qu'il est, donc il y aura beaucoup de spiritualité pour que le corps le suive. Mais il y aura un moment, ça c'est plutôt l'esprit messianique, où on va trouver que le corps lui-même, il est bien. Donc le corps, il n'a pas besoin de la spiritualité, mais c'est un sujet qu'il faut expliquer, donc j'arrête là. Mais dans l'esprit kabbalistique, le fait qu'Esav, il est né le premier, donc le corps, il réagit le premier, après la spiritualité arrive plus tard, c'est parce qu'il y a dans le corps quelque chose qui n'est pas dans l'âme. Mais ça, on va, si je veux, parler une autre fois. En tout cas, merci pour votre écoute. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup et bon Rosh Chodesh Mevorach, Shabbat Shalom.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.